VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Libéria, le vice-président sortant Joseph Boakai a félicité aujourd'hui son rival, le sénateur et ex-star du football George Weah, pour sa victoire au second tour de la présidentielle. Ouvrant la voie à une transition pacifique dans un pays meurtri par les guerres civiles qui ont fait 250 000 morts entre 1989 et 2003. Mon amour pour le pays est plus profond que mon désir d'être président, a déclaré M. Boakai ce vendredi dans un message solennel à la Nation. C'est pourquoi j'ai appelé George Weah pour le féliciter en tant que vainqueur du scrutin présidentiel, a ajouté le vice-président sortant. Plus de détails sur les résultats du scrutin avec Eric Manirakiza.
Les résultats provisoires publiés portaient sur la compilation de 98,1% des suffrages exprimés. L'ex-star du football George Weah est crédité de 61,5% contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. La commission électorale nationale rendra aujourd'hui les résultats définitifs qui seront transmis à la Cour suprême pour validation. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a déjà mis en place une équipe de transition composée de plusieurs ministres qui est chargée d'organiser un transfert ordonné du pouvoir à son successeur le 22 janvier. Le Libéria n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944. Près de trois décennies après le début d'une guerre civile, Moronvia s'apprête à vivre une transition du pouvoir en douceur entre un président élu et Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique. Toutes les missions d'observation et le secrétaire général Antonio Guterres ont salué la tenue pacifique et transparente du scrutin.
Au Cameroun, un ancien maire accusé de collusion avec le groupe djihadiste Boko Haram a été acquitté après 2 ans de détention. Les détails avec Eddy Issango.
Le tribunal militaire de Yaoundé a acquitté hier Moussa Ramat, ex-maire des Fotokolo dans l'extrême nord du Cameroun, interpellé en septembre 2014 suite à des soupçons de complicité avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Il était accusé d'avoir fourni des armes à Boko Haram et aidé à la commercialisation du produit d'épillage à des combattants du groupe djihadiste qui attaquent fréquemment des localités camerounaises. Son avocat estime que les procès étaient injustes car son client a servi son pays et aidé les interventions de plus hautes autorités militaires. Plusieurs sources indiquent que M. Ramat était intervenu avant d'être arrêté dans plusieurs négociations ayant permis la libération d'otages de Boko Haram. Le 22 décembre, le journaliste Ahmed Abba soupçonné également d'avoir collaboré avec Boko Haram et de ne pas avoir partagé les informations qu'il détenait a été libéré après 29 mois de détention. Depuis 2014, Boko Haram a tué 2000 civils et militaires et enlevé 1 million de personnes dans l'extrême nord du Cameroun, selon le centre d'analyse International Crisis Group. Au total, Boko Haram, actif dans les pays frontaliers du lac Tchad, Nigeria, Cameroun, Niger et Tchad, a provoqué la mort d'au moins 20 000 personnes depuis son apparition il y a 8 ans.
La lutte contre Boko Haram toujours au Niger, dans la région de Diffa. Pour accompagner les victimes des atrocités de Boko Haram, notamment les jeunes adolescents, des structures humanitaires ont été mises en place dans des centres d'appui psychosocial. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a visité un de ces centres.
Un peu à l'écart du site des réfugiés et déplacés de Kabale-Ware-Kazma à une soixantaine de kilomètres de Diffa, sur un espace aménagé, un groupe de jeunes garçons joue au football. Un autre s'essaye au basketball alors que les jeunes filles chantent et dansent. Pas trop loin de cet espace, une bâche bleue recouvre des piquets en fer solide. C'est la salle des cours d'alphabétisation. Nous sommes au centre du dispositif d'appui psychosocial pour adolescents, Diapado, mis sur pied par l'ONG Kopi Niger. Moussa Nuhu Rachid est un des assistants projet à Kopi Niger.
Au niveau de ces espaces, il y a l'éducation non formelle. L'éducation non formelle consiste à aider l'enfant à travers des jeux, les accompagne aussi à les pratiquer au quotidien pour les aider à sortir de leur vécu suite aux crises auxquelles ils ont été confrontés. Devant eux, il y a eu des victimes. Donc parmi les enfants, il y en a qui ont gardé ces souvenirs sombres, qui les fait vraiment souvent revivre ces expériences, qui les met dans un état un peu qui n'est pas bien.
Chaque jour, depuis des mois, des animateurs se rendent au niveau de ces centres. L'animateur du jour de notre passage sur ce site est Inoussa Adamou Salifou.
À travers ces genres de jeux, l'enfant se retrouve. L'enfant vient, il joue avec ses amis, ses pères. Il comprend que malgré tout ce qui s'est passé, il peut vivre heureux. Il peut vivre au sein d'une société, au sein d'une communauté, avec des gens qui les accueillent bien, qui les permettent de s'épanouir. Et pratiquement depuis qu'on était venu, parce que c'est un nouveau site qu'on a débuté les activités en juin. Au début, quand on avait commencé, donc les enfants, ils étaient un peu réticents même aux activités, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Mais petit à petit, avec le temps, ils commencent à s'adapter. Et vraiment maintenant, comme vous le constatez, sur le terrain, tous les enfants sont heureux. Ils ont même pratiquement oublié ce qu'ils ont vécu.
Alors que les enfants de la tranche d'âge 9-14 ans chantent et jouent sur le terrain multisport, les 15-18 ans, eux, prennent des cours de kanuri, la langue locale, dans la salle d'à côté. Ceux qui ont suivi les cours d'alphabétisation le matin pratiquent les activités récréatives l'après-midi et vice-versa. Tout se passe au grand plaisir de ces enfants. Abdullah Razak Idrissa, de retour de Difa pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ntoumi s'est prononcé sur l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le pôle, signé le 23 décembre entre ces rebelles et le gouvernement. Il a donné les précisions suivantes.
Nous prenons acte de la volonté de deux parties de désamorcer la crise et de rendre permissif le processus de paix dans le département du pôle, en jugeant nécessaire d'arrêter les hostilités. Mais, compte tenu du fait que le texte avant sa signature ne nous a pas été soumis et ne fait pas ressortir nos préoccupations majeures, nous exigeons la mise en place d'une commission mixte et paritaire de travail qui sera composée des mandataires du gouvernement et des émissaires mandatés par mes soins qui vont se joindre à ceux qui sont sortis des prisons. Cette commission aura vocation de revoir et de corriger le corps de tout le texte en prenant en compte les points suivants. Le règlement politique de la situation sous l'observation internationale, les levées des mandats d'arrêt et de la suspension du CNR, la réinsertion politique et la réinsertion socio-économique, le retrait de troupes dans les zones où il n'y avait pas leur présence avant la guerre, la libération de tous les détenus politiques, l'assistance multiforme des populations sinistrées du département du pôle, l'organisation du dialogue national inclusif sous l'observation internationale.
Le pasteur Ntoumi, chef des rebelles du pôle au Congo-Brazzaville. Ouganda, la police ougandaise a annoncé aujourd'hui avoir inculpé pour terrorisme 45 citoyens rwandais qui avaient été arrêtés le 11 décembre à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Ces 45 rwandais vivent en Ouganda et affirment qu'ils se rendaient en Tanzanie pour une mission évangélique. Mais le Rwanda les accuse d'être des membres du Congrès national du Rwanda, RNC, parti d'opposition en exil formé par d'anciens proches du président rwandais Paul Kagame et que Kigali qualifie de terroristes. Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump a vivement dénoncé jeudi la position de Pékin qui empêche selon lui toute solution amicale dans le dossier nucléaire nord-coréen. Un changement de ton pour le chef de l'exécutif américain qui louait dernièrement les efforts chinois pour faire pression sur la Corée du Nord. Azuma Compaoré.
Pris la main dans le sac, a lancé le président américain sur Twitter, se disant très déçu de voir la Chine permettre au pétrole d'entrer en Corée du Nord. Il n'était pas clair dans les médias si le président américain faisait référence à des preuves en possession des États-Unis d'un éventuel non-respect par la Chine des sanctions internationales. Des sanctions contre la Corée du Nord qui ont par ailleurs été durcies par le Conseil de sécurité de l'ONU le 22 décembre par un vote unanime sur une résolution américaine, juste à la suite des négociations entre les États-Unis et la Chine. Selon Washington, seule une vraie pression de la part des Chinois et un embargo pétrolier strictement respectées peuvent faire plier Kim Jong-un et le pousser à négocier l'abandon de son programme nucléaire. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a dans une tribune publiée par le New York Times estimé que même si Pékin a appliqué certaines interdictions d'importation et sanctions, il peut et devrait continuer à faire plus.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.